La femme de Rossetti, c'est à ce seul titre que le nom de la belle, la taciturne Elisabeth Sidal, est passé à la postérité. Séduit par son visage un peu étrange, par la couleur cuivrée de son abondante chevelure, Dante Gabriel Rossetti, le poète peintre fondateur du mouvement pré-raphaélite, s'enthousiasma vraiment pour celle qui, avant d'être son épouse, fut son modèle puis son élève, et, dès la première rencontre, la femme de sa vie, l'inspiratrice, celle que l'amour égoïste de l'artiste tortura peut-être, mais qui emporta dans la tombe le secret de son activité créatrice.
Elizabeth Siddal, A Vampire in the Painting.
Second épisode, Elizabeth Siddal, autoportrait.
A Unique Story by Lila Bozès and Laurent Polleret.
Stuart, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on se trouve ?
Nous sommes à la cimetière de Highgate, à Londres. C'est un vieux cimetière qui est fondé en 1839. Et la tombeau de Lizzie Siddal et les Rossetti sont ici.
Stuart, est-ce qu'on peut décrire la tombe d'Elisabeth Siddal de manière assez précise pour qu'on puisse s'imaginer à quoi elle ressemble là maintenant?
C'est une tombe un peu compliquée. Aujourd'hui, il y a une grande pierre tombale avec le nom de Gabriel Rossetti au-dessus, ainsi que le monogramme du Christ, et en dessous, le nom de sa femme, Frances. Mais à l'origine, il y avait une plus petite pierre, et quand on observe de plus près, on peut voir une ligne sous le nom de Frances. C'était la pierre d'origine, et sous le nom de Gabriel se trouvait celui d'Elisabeth Siddal. Quand on a enterré Elisabeth, Dante Gabriel Rossetti a mis dans son cercueil un livre de poèmes. Il s'agissait du seul exemplaire de ce recueil. Je pense qu'il a enterré ses poèmes parce qu'il se sentait très coupable de sa mort. Il se sentait responsable. Certains de ses poèmes lui avaient été inspirés par sa femme.
Nombre de ses poèmes avaient été inspirés par sa femme et adressés à elle. Et à sa demande, il les avait copiés, parfois de mémoire, dans un petit livre qu'elle lui avait donné à cet effet. Le jour de ses funérailles, ce livre à la main, il entra dans la pièce où reposait son corps. Et sans se soucier de la présence d'autres personnes, il s'adressa à sa défunte épouse, comme si elle pouvait l'entendre. Il lui dit que les poèmes contenus dans ce livre avaient été écrits pour elle, et qu'elle devait les emporter avec elle dans la tombe. Sur ces mots, il plaça le petit volume dans le cercueil, à côté du visage de sa femme, et l'enveloppa de ses beaux cheveux dorés. Et il fut enterré avec elle, dans le cimetière de Highgate.
Recollection of Rossetti, de Hall Caine, 1928.
7 years after she had been buried in October.
7 ans après l'enterrement, en octobre 1869, un ami de Rossetti, qui s'appelait Charles Augustus Howell, et qui était un homme très désagréable, le persuada d'essayer de récupérer cet unique recueil de poèmes. Rossetti obtint la permission auprès du ministère de l'Intérieur pour exhumer le cercueil. Ils ont fait tout cela de nuit pour que l'affaire ne s'ébruite pas. Ils ont allumé un feu à côté de la tombe. Rossetti ne voulait pas du tout être là, mais il y avait Charles Howell, un avocat, afin de s'assurer que rien d'autre n'était enlevé du cercueil en cas de fraude, ainsi qu'un médecin pour récupérer le recueil de poèmes et le désinfecter. Il y avait aussi quelques employés du cimetière. Ils s'y sont mis, ils ont déterré le cercueil et ils l'ont ouvert. La légende veut que sa chevelure rousse avait continué de pousser et remplissait totalement le cercueil. Ce qui est impossible, les cheveux ne poussent pas après la mort. Mais elle avait de très longs cheveux et peut-être qu'ils se sont mal rendus compte de leur longueur. Mais c'est une légende tenace. En tout cas, ils ont récupéré le recueil, le médecin l'a désinfecté et Rossetti a fini par le publier.
Adrien Parti, on dit qu'Elisabeth Sidal hante le cimetière de Highgate à Londres sous la forme d'un vampire. Quelle est l'origine de cette croyance, selon vous ?
Alors, l'origine de la croyance du retour d'Elisabeth Sidal par de la mort, en fait, tient à ce qui s'est passé 7 ans après son enterrement. Donc, pour rappeler, elle meurt en 1862. Après son mariage avec Rossetti et après une fausse couche, sachant qu'elle a toujours été décrite en fait comme étant de santé assez fragile, il y a notamment cette légende autour de d'Ophélie de Millet en fait où il l'aurait immergée en fait dans un bain glacé qui lui aurait valu en fait des suites médicales pendant des années. Donc le personnage est quand même connu pour avoir une santé fragile. Aurait abusé du laudanum aussi, ce qui expliquerait pourquoi on aurait pu retrouver son corps dans une conservation avancée, ce qui ne repose sur aucune vérité scientifique. Bref, donc du coup, elle meurt. Et en fait, à sa mort, Rossetti fait enterrer avec elle un recueil de poèmes qui sont des poèmes qu'il a écrits durant des années, et pour lesquels il n'a jamais trouvé de débouché en termes de publication. Donc il met son carnet, en fait, qu'il l'enrobe dans les cheveux en fait, de sa femme. 7 ans passent et en fait, il arrive à un point de sa carrière où il a des difficultés financières et il est fortement influencé en fait par son agent littéraire et ami de l'époque, Charles Augustus Howell, qui lui suggère lourdement de procéder à l'exhumation du corps de façon à récupérer le carnet. Donc Rossetti tergiverse un petit peu, mais finit par aller dans ce sens. Il outrepasse en fait un petit peu les directives légales pour le faire parce qu'il a parmi ses amis un des secrétaires du Home Office, donc la haute juridiction anglaise, à qui il demande l'autorisation. Et il passe outre aussi la demande d'autorisation à sa propre mère, qui est censée être la propriétaire du caveau, parce qu'il veut pas qu'elle sache ça, d'autant qu'il y a des problématiques logistiques, parce qu'en fait, il y a une des tantes qui a été enterrée depuis, on ne sait pas si son cercueil n'a pas été mis au-dessus de celui d'Elisabeth Sidal, en fait, donc c'est assez compliqué. Howell procède à l'exhumation seul, il n'est pas là, Rossetti, du tout, parce qu'en fait, il paraît quand même assez attristé et affligé par cette situation. Donc il procède à l'exhumation. On peut s'arrêter d'ailleurs sur le personnage de Charles Augustus Howell, qui d'un point de vue artistique et littéraire est relativement intéressant. Donc comme je le disais, c'était l'agent littéraire et ami d'Antrocetti à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un personnage qui est souvent décrit comme un aventurier, un maître chanteur, un soldat de fortune, même par Alken, qui a été le secrétaire de Rossetti. Donc c'est quand même une personnalité un peu controversée. Très sombre, à tel point en fait qu'il a inspiré Conan Doyle pour la nouvelle Charles Augustus Milverton qui met en scène un maître chanteur. Donc il y a déjà d'emblée autour de cette exhumation un lien avec un personnage qui transcende un peu toute la scène culturelle et artistique de l'époque. Donc c'est Charles Augustus Howell, de ce qu'on en sait, qui est le premier à laisser courir des bruits par rapport à l'état du corps d'Elisabeth Sidal au moment de l'exhumation. Comme quoi ses cheveux auraient continué de pousser après sa mort, qu'ils remplissent le cercueil, sachant que la recension de cette anecdote sera faite des années plus tard par le fameux Alcaine, en fait, au moment où il est secrétaire de Rossetti. Donc il y a tout une espèce de cérémonial macabre en fait qui se déroule autour de cette exhumation. Il y a beaucoup de chercheurs qui pensent que cette idée de l'anecdote, que le corps soit dans un état immaculé, que les cheveux aient continué de pousser, ça soit un montage complet de Howell pour en fait rassurer Rossetti sur ce qu'il était en train de faire et lui dire que le corps de votre ex-femme était dans un état immaculé, c'est la preuve divine en fait qu'il fallait exhumer ce recueil. Donc ce qui se passe après, donc, c'est que Rossetti va publier ses poèmes. Après que ceux-ci, d'ailleurs, aient bénéficié d'un traitement pour restaurer leur contenu. Donc il y a un médecin qui est présent, en fait, qui va procéder à quelques traitements chimiques de manière à s'assurer qu'il n'y ait pas de germes. Et de ce que dit d'ailleurs aussi Holkane dans son livre, « Recollection of Rossetti », il explique en fait que le Kate Poesie n'est pas forcément dans un état très très reluisant, ce qui va en plus quelque part à l'encontre même de l'état du corps, en fait. Donc on voit d'emblée, en fait, que la légende commence à se fissurer à ce niveau-là.
Ce qui n'était qu'une muse, certes célèbre, certes mystérieuse, certes, voilà, très, très connue, devient plus que ça, Florence Alibert. C'est cette seconde vie, ou cette seconde mort, je ne sais pas comment il faut le voir, encore une position intermédiaire qui est la sienne, cette vie de undead, de non-morte, qui va la propulser dans une véritable histoire légendaire, puisqu'il est dit que son corps était intouché, inchangé, comme le sont le corps des saintes, en fait, ou des vampires. Je vous laisse choisir. Peut-être un peu des deux. Et donc, cette histoire scabreuse où, effectivement, alors Rossetti n'était pas présent, hein, je tiens à le dire, il avait délégué cette triste besogne à d'autres, mais en tout cas, les personnes présentes rapportent que dans le cercueil, elle était toujours belle, elle était toujours pâle, elle était toujours telle qu'elle avait été dans les tableaux, dans les représentations des tableaux, et que son statut de muse d'icône était intouché par la mort, ce qui est quand même... voilà. Alors, la réalité, on ne sait pas. Mais cette légende-là, en tout cas, ou ce fait, je ne sais pas, cette figure qui semble intacte, non corrompue, en fait, renforce cette question de pureté, cette question, justement, de sainteté ou de personnage irréel, improbable. Donc, elle est réputée être intacte. Et en ce sens et à ce titre, bien sûr qu'elle est devenue un personnage qui a largement dépassé la simple réalité physique, psychique, d'une femme tout à fait... Je n'allais pas dire banal, ça ne lui convient pas. Mais en tout cas, d'une femme tangible et humaine, tout simplement.
En fait, on se pose la question, qui est Elisabeth Sidal quand on enlève toutes les légendes qui sont liées à sa vie? Qu'est-ce qui reste?
Glenda Hyde.
Je pense que ce qu'il reste d'elle, c'est une jeune artiste ambitieuse et qui a vécu une vie très brève. Elle a dessiné beaucoup d'œuvres intéressantes qui ont ensuite été photographiées par son mari après sa mort. D'ailleurs, plusieurs peintres du cercle pré-raphaélite se sont inspirés de ses dessins et lui ont emprunté des idées pour beaucoup de grands tableaux que l'on peut voir aujourd'hui accrochés dans les musées. Il y a beaucoup de tableaux dont on peut faire remonter l'origine au dessin d'Elisabeth. Ces dessins eux-mêmes ne sont pas très connus. On ne connaît que 4 exemplaires des albums photographiques de Rossetti. 2 sont au musée Ashmolean d'Oxford, 1 au musée Fitzwilliam de Cambridge, et il y en a 1 aux États-Unis. Mais ils sont cachés, ils ne sont pas exposés publiquement. Il faut faire une demande spécifique pour aller les voir. Et pour faire cette demande, il faut savoir qu'ils y sont. Lorsqu'on y va, on peut voir toutes les œuvres qu'il a pu photographier. Quand on regarde les autres œuvres pré-raphaélites qui lui ont succédé, on voit à quel point ils contiennent des éléments de ses idées à elle.
Donc, pendant longtemps, on n'a pas parlé d'Elisabeth Sidal quand on racontait l'histoire des pré-raphaélites. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'elle a tout à fait sa place dans ce mouvement.
Notre
objectif, c'est qu'elle soit reconnue comme ayant eu une position centrale dans le mouvement pré-raphaélite. L'un de ses dessins, intitulé « Tête de jeune fille » ou que l'on connaît sous ce nom, pourrait bien avoir été le début d'un grand changement au sein du mouvement esthétique. Parce qu'après ce dessin, Gabriel a peint Bocca Bachiassa, qui devint un des tableaux pré-raphaélites les plus connus et est considéré comme un tournant du mouvement. Mais quand on observe ce tableau et le dessin d'Elisabeth côte à côte, on voit énormément de points communs dans la position de la tête, des mains,
etc. So he would have known her drawing.
Il connaissait cette œuvre, qu'il a sans doute inspirée, comme beaucoup d'autres des œuvres d'Elisabeth. Si elle n'avait pas été dans ce cercle, quel aurait été le destin des pré-raphaélites? Tous ces tableaux célèbres existeraient-ils? Je n'en suis pas sûre.
Et à quelle époque de sa vie est-ce qu'elle commence à s'intéresser à l'art?
Je pense qu'elle s'est toujours intéressée à l'art. Et peut-être que, comme je le disais, elle voyait le cercle pré-raphaélite comme une manière d'avancer et d'apprendre. Je pense qu'elle avait des ambitions dans l'industrie du livre, parce que ses dessins sont souvent très petits. Dans certains d'entre eux, on peut voir qu'elle a tracé des lignes pour créer un ex-libris. Elle est devenue l'élève de Gabriel en 1852, et l'un de ses premiers tableaux, en 1853, était son autoportrait. C'est un grand mystère, car on ne sait pas où se trouve ce tableau aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez décrire l'autoportrait d'Elisabeth Sidal ?
Oui, il est cerclé d'un cadre doré. Le fond est vert, la robe qu'elle porte est plutôt couleur lilas. Elle représente sa chevelure rousse et ses yeux nous regardent directement, nous, les spectateurs. Tandis que dans tous les portraits d'Elisabeth par Gabriel, elle baisse les yeux. Elle ne nous regarde pas. Je pense qu'avec cet autoportrait, elle voulait nous montrer qu'elle est une artiste. Et elle voulait nous mettre au défi de la reconnaître comme telle. Je pense qu'elle se représente d'une manière très différente par rapport aux représentations que les autres pré-raphaélites ont fait d'elle, particulièrement Gabriel. Elle se peint d'une manière très honnête. Selon William Michael, c'est le portrait le plus naturel qui ait été fait d'elle. Donc je pense qu'il s'agit vraiment d'elle.
C'est un autoportrait qui est daté de 1853-1854, donc que je dirais avant les malheurs, puisque la relation avec Rossetti tourne mal, on va dire, autour de 1855, en fait, hein, quand il refuse le mariage de façon vraiment récurrente. On voit que les choses tournent vraiment mal jusqu'au mariage de 1860 et à sa mort en 1862, mais en tout cas, c'est avant les malheurs. C'est un autoportrait, on voit un cou long, assez massif, mais surtout long, de grands yeux d'une couleur glauque, un peu globuleux, recouvert par de grandes paupières qui lui donnent un regard fixe, sérieux, intense, sage, et une bouche presque pincée, comme un petit fruit rouge, puisqu'elle est de couleur framboise, hein, sans doute, sur cet autoportrait. Et des joues un peu rosées, comme peuvent l'être les joues d'une jeune femme qui n'est pas encore en trop mauvaise santé. Et elle est très chaste, elle est très modeste. Sa robe a un petit col blanc, c'est une robe grise. Et ses cheveux sont coiffés en bandeaux, ramenés à l'arrière. Cheveux qui sont cuivrés, d'un roux un peu éteint, presque au burn en fait. Elle apparaît, elle pose comme ça, sans prétention. Avec sans doute nulle autre intention de se peindre comme elle se voyait elle-même, avec ses yeux quand même, qui sont des yeux toujours un peu dans ce monde psychopompe et intermédiaire. Elle se rend justice, en quelque sorte, avec cet autoportrait, qui est tout, sauf, encore une fois, un portrait idéal, où elle n'exhale pas sa propre beauté. La question n'est pas du tout là pour elle. On voit que, pour une fois, elle est vraiment sujet et non pas objet. Elle s'approprie son propre être et ce qu'elle nous dit, ce qu'elle montre, est à la fois assez conforme de ce qu'on a fait d'elle, c'est-à-dire cette beauté assez chaste, assez distante, mais il n'y a pas d'idéal là-dedans. Et c'est peut-être le poison de sa vie qui a été l'idéal, être idéaliser la relation avec Rossetti. Et là, on est bien loin de tout ça. On est dans quelque chose qui est simple, honnête et tout à fait... brut et dépouillé. Et très touchant, sans doute.
A silence falls upon my heart and hushes all its pain. I stretch my hands in the long grass and fall to sleep again. There, to lie empty of all love, like beaten corn of grain. Le silence tombe sur mon cœur, étouffant sa douleur. J'étends mes mains dans l'herbe haute et me rendors encore. Gisant, vidé de tout amour, tout comme livré du blé battu.
Pendant
pendant sa vie, est-ce qu'elle a eu des soutiens pour exercer sa peinture ?
Oui, elle a eu beaucoup de chance. Gabriel montra son travail à John Ruskin qui lui versa une rente. Il la considérait comme un génie, parmi les cinq génies qu'il connaissait. Elle était la seule femme parmi ces cinq génies. Elle reçut cette rente, puis lui versa plus d'argent pour qu'elle puisse aller en France, où elle passa du temps à Paris, puis à Nice. Elle aimait bien Paris, elle devait aller directement à Nice, mais elle resta quelque temps à la capitale. Elle a pu vendre un de ses dessins, intitulé Clark Saunders, à un Américain, Charles Eliot Norton. Mais Rossetti, après la mort d'Elisabeth, exigea de récupérer le tableau et il lui renvoya. Il est maintenant au musée Fitzwilliam, à Cambridge.
Est-ce que vous pouvez dire qui est John Ruskin?
John Ruskin was one of the art critics who was very famous at the time. He had taken
John Ruskin était un des critiques d'art les plus connus de l'époque. Il appréciait beaucoup Turner et à l'époque il soutenait plutôt John Everett Millais. Mais Millais a eu une relation avec sa femme. Donc il lâcha Millais et se rapprocha de Gabriel Rossetti.
So he was a very famous art critic at the time.
C'était donc un critique d'art très célèbre et c'était une vraie réussite pour Elisabeth qu'il devienne son mécène. Elle était la seule femme qui l'aida de cette manière, même s'il donnait des conseils à certaines autres artistes de l'époque.
Quand je vois ce portrait, ce petit portrait là qui est devant moi encore aujourd'hui, qui est une photographie d'elle, qu'est-ce qu'il en reste ? Et qui est-elle ? Alors, elle est beaucoup décrite par les autres, mais comment elle se décrivait elle-même ? Qu'est-ce qui reste ? Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste une partie d'œuvres picturales assez modeste, une grosse vingtaine de dessins, d'aquarelles, sous influence de Rossetti, mais pas que. On voit une patte originale qui est assez touchante, un peu maladroite. Elle n'a pas eu une formation, elle n'a pas eu le temps d'avoir une formation académique complète, mais on voit une originalité dans ses propres productions, avec des personnages assez anguleux, dans des poses parfois maniéristes, un emploi de la couleur là aussi très franc, et puis un intérêt pareil pour des sujets qui étaient ceux des pré-raphaélites, hein, des sujets shakespeariens, des sujets liés à des poèmes de Tennyson, etc. Donc son œuvre en tant que telle, son œuvre picturale, est modeste, mais existante, et montre qu'elle avait réussi à intéresser, par exemple, des mécènes comme John Ruskin, et qu'il lui reconnaissait une qualité propre en tant qu'artiste. Donc, on peut quand même sans doute se fier à Ruskin et à ce jugement qui est un jugement très flatteur sur cet art modeste et limité dans le temps. Alors, il reste d'Elisabeth Sidal une œuvre picturale. Que reste-t-il encore ? Alors, il nous a laissé des poèmes qu'on peut voir dans une petite boîte cochard pour les amateurs ou les amatrices de ce genre de choses. C'est l'amour pour les archives, hein, là, vraiment, que je déclare. Et dans cette petite boîte qui se trouve dans la printing room de l'Ashmolean Museum d'Oxford, eh bien, on a quelques dessins de Rossetti, d'elle, mais surtout, on a la plupart de ses poèmes. Donc, on a des manuscrits. Alors, bien sûr, il y a une émotion. Un contact direct qui est provoqué par l'écriture, par les repentirs, par la génétique du texte. Et cette émotion-là, eh bien, elle est irremplaçable parce que c'est un contact direct avec elle. On voit la forme de ses lettres, on voit ce qu'elle a raturé, on voit ce qu'elle a repris. Et puis on voit son écriture qui se dégrade, parfois, sans doute, peut-être, ce n'est qu'une hypothèse, hein, sous l'emprise du laudanum. Et on voit surtout la forme modeste, et vraiment ce mot lui convient bien, ce qualificatif lui va assez bien parce que eh bien, ce sont des petites feuilles volantes, hein, écrites sans doute comme un brouillon. Hein. Et c'est ce qui nous reste d'elle, parce que c'est sa voix en direct. C'est sa voix qui n'est pas une interprétation des uns, pas une surinterprétation des autres, pas un amalgame ou une ressouvenance de quelque chose. C'est elle.
Ô bois silencieux, je te pénètre, le cœur accablé, malgré les voix de tes arbres et tes fougères m'enlaçant les jambes. Laisse-moi m'asseoir dans ton ombre la plus profonde, alors que les hiboux gris planent tout autour. Et là, je te demanderai une faveur, que je ne m'évanouisse, ni ne me pâme, ni meure. O silent wood, I enter thee, with a heart so full of misery. For all the voices from the trees, and the ferns that cling about my knees. In thy darkest shadow let me sit, when the grey owls about thee flit. There will I ask of thee a boon, that I may not faint, or die, or swoon.
Comment expliquer le fait qu'on redécouvre l'œuvre d'Elisabeth Sidal? Qu'est-ce qu'on raconte de sa vie aujourd'hui?
Je crois que ça a commencé avec les mouvements féministes des années 60 et 70. Quand on a commencé à se demander pourquoi est-ce que l'histoire est toujours écrite par des hommes? Qu'est-il arrivé aux femmes de l'histoire? Et petit à petit, depuis les années 70, il y a eu un mouvement de redécouverte des artistes femmes, et Elisabeth en fait partie. Je l'ai rencontrée, comme beaucoup de gens, avec le tableau Ophélia. J'étais envoûtée et je voulais en savoir plus. J'ai passé les 13 dernières années à faire des recherches, à savoir tout ce qu'il y a à savoir et à essayer de rendre son art et sa position au sein du cercle pré-raphaélite beaucoup plus connu. Pour que les gens puissent se rendre compte que les femmes ont toujours été là et ont joué un rôle très important dans le mouvement pré-raphaélite. Nous sommes devant la Tate, dans un petit jardin, très beau. Malheureusement, nous n'avons pas pu enregistrer à l'intérieur du musée. Mais maintenant, nous allons pouvoir rentrer pour voir les tableaux.
C'était Elisabeth Sidal, une vampire dans le tableau. Second épisode, Elisabeth Sidal, autoportrait. Avec Glenda Youd, professeure d'histoire de l'art à l'université de York, Florence Alibert, maîtresse de conférences et conservatrice des bibliothèques, Aurélie Petiot, enseignante et chercheuse en histoire de l'art à l'université Paris-Nanterre, Valérie Bajou, conservatrice au château de Versailles, Anaëlle Lahaye, docteur en histoire de l'art. Stuart Hoare, bénévole au cimetière de Highgate. Et Adrien Parti, spécialiste des vampires. Lecture, Laurence Gray, avec les voix de Christine Bruchet et Pablo Léridon. Traduction, Pablo Léridon. Documentation, Annie Signoret. Mixage, Dali Yaha. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Lila Bozès et Laurent Polleret.